Pas de vie politique, pas de vie sociale, et sans vie politique, pas de langage. Alors, aujourd'hui, on pourrait retrouver très simplement cette idée selon laquelle la vie des groupes, la bonne vie des groupes, la bonne intelligence des individus qui vivent ensemble, elle est conditionnée par une bonne communication. Comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que quand ça ne va pas, il faut communiquer. Il faut apprendre à bien communiquer. On fait des écoles de communication. Il y a des campagnes de communication, de l'État, par exemple, qui veut faire passer un message. Et on espère par là faire changer les comportements, améliorer la vie sociale, etc. Cette idée de communication, en fait, si on l'analyse un peu plus loin, elle est solidaire de l'idée d'un pouvoir du langage. Il faut bien communiquer pour changer les comportements, il faut bien communiquer pour faire agir d'une certaine manière. Un pouvoir, c'est ce qui fait agir. C'est ça la définition d'un pouvoir la plus, disons, la plus simple ou la plus abstraite que j'ai trouvée. Avoir pouvoir sur, c'est pouvoir faire agir comme on le veut, comme on l'entend. Et donc, l'idée qu'il y a derrière cette notion de communication, de bonne communication, c'est qu'en changeant les mots, on pourrait peut-être changer le monde, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas notre rapport au monde et notre manière de vivre ensemble. Alors, c'est vrai qu'une mauvaise communication peut entraîner des difficultés réelles dans les relations humaines et sociales. Phénomène du malentendu, de la rumeur, de la mauvaise compréhension. Et on sait les problèmes tout à fait quotidiens qu'on peut rencontrer à cause de ça. Alors, c'est quoi une mauvaise communication ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la communication, on va la définir pour l'instant par un schéma très simple qui a été donné, j'y reviendrai, par un linguiste d'origine russe qui s'appelle Jacobson au XXe siècle. Et donc, c'est vraiment simpliste, hein, c'est la transmission d'un message entre un destinateur, un locuteur et un destinataire. Donc, on a trois pôles, destinateur, celui qui envoie le message, destinataire et puis le message lui-même. Je préciserai les choses tout à l'heure. Donc, quand on dit qu'il y a une mauvaise communication, ça veut dire qu'il y a l'un des trois points qui ne va pas. D'accord ? Donc, soit le locuteur ne parle pas bien, soit le destinataire n'entend pas bien, soit le message lui-même n'est pas clair. Et donc, travailler à bien communiquer, ça voudrait dire essayer de contrôler les trois points de la chaîne. Voilà, essayer de faire en sorte qu'on maîtrise chaque point de la chaîne. Donc, on améliore pour ça les moyens techniques, aujourd'hui. On améliore les technologies de la communication. Alors, soit celles qui ont trait au destinateur, à celui qui fait passer le message, il faut qu'il apprenne à parler d'une certaine manière, avec certains gestes, etc. Soit du point de vue du message lui-même, hein, il y a des communicants qui vont travailler sur le message, sur sa forme. Soit du point de vue même du destinataire, de celui qui reçoit. On va lui apprendre à bien entendre, à bien comprendre. On va lui dire ce qu'il faut comprendre, même parfois. Donc on assiste, je crois, à une inflation des techniques de la communication donc qui vise à améliorer toute la chaîne que je viens de décrire. Et la question que j'aimerais poser, c'est dans cette inflation de la communication, est-ce qu'on a encore quelque chose à se dire ? Est-ce qu'on dit encore, on a l'impression, tout se passe comme si, plus on communique et moins on perd, on perd du sens. Voilà, donc je vais interroger le langage pour savoir si il se réduit à la communication. Alors là, pour l'instant, je vous annonce ça comme un postulat de départ. Hein. Je n'ai absolument pas montré en quoi il pouvait y avoir une perte de sens. Donc ça va être mon propos. Mais je vais essayer de montrer que, certes, le fait de parler nous met dans ce qu'on pourrait appeler une situation de communication, c'est-à-dire on parle, comme je le disais, avec autrui, devant autrui. On est en relation. Mais pour autant, réduire le langage à une communication, en fait, c'est une conception techniciste du langage. D'ailleurs, le sujet, il est posé de cette manière-là. Le langage ne sert-il qu'à communiquer ? Et le problème, c'est pas tant la communication, c'est l'idée qu'on se sert du langage. Comme s'il était un outil. Et vous voyez, tout de suite, c'est très problématique, parce qu'un outil, on s'en sert ou on s'en sert pas. Le marteau qu'on a chez soi, on le sert une fois, deux fois, on le sort une ou deux fois par an. peut-être un peu plus pour certains, mais un outil, on a la liberté de s'en servir ou pas. Le langage, c'est pas du tout ça. Nous sommes d'emblée dans le langage. Avant même d'avoir décidé de parler, on parle. On décide pas de parler. Donc, ce rapport, cette assimilation du langage à de la communication, est-ce que c'est pas une vision techniciste des choses qui, en fait, peut-être, c'est ma thèse pour l'instant, hein, peut-être fait que, eh bien, considérant le langage comme un outil, nous nous interdisons peut-être de penser. Ou en tout cas, plus il y a une inflation de la communication, moins il y a de sens, moins il y a de pensée. Bon, c'est une thèse un peu extrême, mais justement, je vais essayer de la défendre. Donc, pour poser vraiment les concepts philosophiques, voilà, ce que je vais interroger, c'est ce rapport techniciste au langage. Est-ce qu'on peut vraiment penser le langage comme un outil dont on aurait la liberté de se servir ou non? Donc, vous voyez déjà que je vais essayer de montrer que non. Bon, j'argumenterai tout à l'heure. Donc, on verra dans une première partie à quoi correspond cet usage spécifique du langage qu'est la communication. D'accord ? Donc, j'essaie quand même de rendre raison à cette notion de communication, de voir que c'est un usage spécifique du langage. Et ensuite, je critiquerai donc cette conception utilitariste en montrant que, en fait, nous ne maîtrisons pas le langage comme un outil, que les significations, les connotations de notre discours nous échappent en permanence. Nous sommes dans le langage et ce n'est pas nous qui nous servons du langage. Donc je vais montrer, non pas que le langage c'est de la communication dans la deuxième partie, mais que le langage c'est ce qu'il y a de commun à tous. C'est la langue en fait, et la langue elle est commune, et c'est à partir de ce commun que nous pouvons parler. Et enfin, j'irai vers une critique plus radicale encore de cette conception utilitariste du langage que l'on a dans la notion de communication. Alors, pour commencer, donc, qu'est-ce que cet usage du langage comme moyen de communication ? Donc, je disais tout à l'heure, je vais le préciser maintenant, que cette notion elle a été schématisée par Jacobson, au XXe siècle, donc un linguiste qui précise donc ces trois pôles que j'ai décrits tout à l'heure, destinateur, destinataire, message. En fait, plus précisément, il va dire que le message est transmis par un code, donc il y a un code, qu'il faut un canal, donc il faut un contact, si vous voulez, entre le destinateur et le destinataire. Et puis, le message va porter sur quelque chose de réel qu'on appelle le référent. Bref, ça c'est très technique, c'est pas très important à retenir, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous voulez, je peux le répéter, un destinateur-destinataire, message, et puis il y a un code, d'accord ? Donc la langue, par exemple, ça peut être la langue des signes, hein, ça peut être, c'est pas forcément la langue orale. Un canal, donc le téléphone, c'est un contact, le contact visuel, c'est un contact, et puis un référentiel. Et ainsi, en fait, à chaque pôle de ce schéma que j'ai un petit peu plus complexifié que tout à l'heure, correspond une fonction du langage. Donc, il est vrai qu'il y a une fonction du langage, que, en ce sens, le langage est une sorte d'outil. Ça nous permet, qu'est-ce qu'un outil ? C'est un moyen qui nous permet d'atteindre certaines fins. Alors, je peux vous donner un certain nombre de ces fonctions pour Jacobson. Donc, par exemple, il dit la fonction expressive, elle est au service du destinateur, de celui qui transmet le message. Donc, par exemple, je vais dire « j'ai mal ». Voilà, je transmets un message qui me concerne. En tant que destinateur, je vais informer sur mon état. J'ai mal, je ne me sens pas bien, je suis triste. Il peut y avoir une fonction qu'il appelle conative, qui est centrée sur le destinataire. Par exemple, quand on donne un ordre. Range ta chambre. Voilà, ça, c'est fonction conative du langage, centrée sur le destinataire. Etc. Alors, il y a la fonction fatigue. Elle est assez connue. C'est celle qui va vérifier que le canal passe bien. Au téléphone, allô, tu m'entends ? Fonction fatigue du langage. Le but, c'est pas de dire quelque chose sur la réalité, de dire quelque chose sur l'une des deux personnes en situation de communication. C'est juste de vérifier que ça passe bien. Tu me vois là, c'est bon, tu m'entends, bon. Allez, encore deux. La fonction référentielle, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est la plus simple, c'est un message qui informe sur une réalité. Tiens, ce matin, il pleut. fonction référentielle, je veux informer sur la situation dans laquelle on se trouve ou sur une réalité quelle qu'elle soit. Et puis, la fonction métalinguistique, c'est celle, je vais finalement toutes les dire, il y en a 6, donc j'en suis à 5. Métalinguistique, c'est celle qui on va parler au sujet de notre message lui-même. Donc, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu m'as dit ce matin que, voyez, on revient le soir, on règle ses comptes dans un couple. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette expression-là ? Tu m'as dit ça. Fonction métalinguistique du langage. C'est aussi celle que utilise le dictionnaire. Hein, le dictionnaire, c'est du langage au sujet du langage, du discours au sujet du langage, de la langue plus précisément. Je reviendrai sur la distinction après. Et puis la dernière, je la cite, mais je ne la développe pas parce que j'y reviendrai aussi, elle va m'intéresser, parce qu'elle est à part. C'est la fonction poétique du langage. Qui, en fait, c'est un type de discours qui nous rend attentif à la matérialité même du message. Donc, par exemple, l'affreux Alfred, j'ai trouvé cet exemple. Oui, il y a une allitération, hein, on dirait un petit cours de français de français de première, une allitération en L, l'affreux Alfred en L et en R, et en F. Donc en fait, c'est tous ces effets, ça peut être la rime, ça peut être... Jacobson, il donne l'exemple « I like Ike », un exemple en anglais. Donc vous voyez, tous les slogans, hein, il joue, c'est un exemple de campagne « I like Ike », de campagne politique, je ne sais pas laquelle. Et donc on voit que là, il y a une musicalité, hein, donc on est attentif à la matière même du mot, des mots. Bref. Alors je reviendrai là-dessus parce que là, on sort d'une fonction vraiment utilitariste, justement. Il y a un jeu purement formel et assez gratuit qui va nous alerter sur le fait que peut-être le langage n'est pas qu'un outil pour faire passer un message ou pour alerter sur tel ou tel type d'information. Donc, en ce sens, on voit bien là qu'il y a des fonctions du langage qui sont diverses et variées, que nous pouvons, à notre guise... eh bien, convoquer telle ou telle potentialité du langage. Donc il est bien un outil. Donc il y a bien des situations de communication, on ne peut pas le nier. Alors, qu'est-ce que communiquer dans ce sens ? C'est viser une certaine réussite du message. Vous voyez, s'il y a une fonction, je le disais, c'est qu'il y a une fin. Le langage est un moyen au service d'une fin. Donc il faut atteindre la fin qu'on vise. Quand le message est passé, en fait, qu'est-ce qui m'indique qu'on a bien communiqué ? C'est que j'obtiens la réaction attendue du destinataire. Donc, par exemple, si j'ai fait appel à la fonction expressive, si j'ai dit j'ai mal, je me sens pas bien, j'attends une sorte d'empathie, une réponse, enfin qu'on tienne compte de mon état. Hein, si j'ai donné une information, c'est une fonction référentielle, j'attends là encore qu'on ajuste, hein, il pleut, bon bah sort ton parapluie, j'attends qu'on ajuste ses actions par rapport à l'information, etc. Bon. Donc, vous voyez, il y a une fonction, il y a des fonctions, le langage est un moyen pour atteindre certaines finalités, donc il y a un rapport technique. Dès qu'on parle d'une articulation moyen-fin, on est dans le domaine de la technique, hein. L'être humain est un être de technique parce qu'il est capable d'utiliser des moyens pour atteindre des fins. Et du coup, ça veut dire que, en ce sens, communiquer, eh ben, il faut que ça réussisse. Vous voyez, on analyse le langage en termes de réussite et d'objectifs. Et donc, la question qu'on pose en fait ce soir, c'est est-ce que tout type de discours peut s'analyser en ces termes-là ? Alors, pour l'instant, c'est un peu technique, mais vous allez voir qu'il y a quand même des enjeux vraiment profonds et assez larges. Pas seulement c'est pas seulement des questions de linguistes. Alors justement, cette analyse du langage en termes d'objectifs, je vais l'appeler ici la vision pragmatique du langage. Le langage est le service de l'action. Hein, on le disait tout à l'heure, l'homme est un être social et le langage, il est au service de l'organisation de la vie en société. En tout cas, c'est l'une de ces fonctions que Aristote remarquait. En fait, cette communication en vue de l'action, qui nous permet donc d'organiser la vie en commun, d'accomplir certaines tâches communes, de travailler ensemble, elle est présente dans le monde animal. Elle n'est pas spécifique à l'homme. Les animaux aussi communiquent. La question, c'est les animaux parlent-ils ? C'est peut-être pas la même chose. En tout cas, ils communiquent entre eux. On le sait. Alors, quand je parle de communication animale, je ne parle pas de l'expression animal. Hein. Il y a une différence entre s'exprimer et communiquer, parce que les animaux aussi s'expriment. Bon, alors, quand on fait cours dans une classe de terminale, ils ont tous un chien, un chat qu'ils aiment énormément, ils ont des liens très forts avec leurs animaux, hein, donc c'est peut-être votre cas aussi. Donc, on peut effectivement dire que l'animal sait exprimer un certain nombre de sensations. Il sait exprimer la douleur, il sait exprimer le plaisir, peut-être un certain nombre d'attentes, d'espoir, je ne sais pas. Je ne veux vraiment vexer personne. Ça va peut-être pas plus loin que ça, mais bon. Donc l'animal s'exprime. Au sens, peut-être pas il exprime sa pensée, hein, bon, j'y viendrai, mais il exprime peut-être un certain nombre de sensations, voire peut-être de sentiments. Mais c'est sûrement pas très complexe. Donc c'est pas de ça dont je parle, parce que dans ce sens-là, l'homme aussi s'exprime. C'est-à-dire nous aussi, nous avons des cris de douleur, des cris qui nous permettent d'exprimer nos sensations, et tout cela est assez naturel, en fait. Mais le langage, c'est bien autre chose que cela. Alors, la communication, deuxième stade, ça existe dans certaines espèces socialisées. D'accord, bon, on peut en citer plusieurs, et vous savez sûrement qu'on a observé de manière plus particulière le langage des abeilles. Donc, je ne vais pas vous faire tout le cours sur le sujet, parce que je pense que tout le monde a eu droit à son cours sur le langage des abeilles dans sa terminale. Donc, si vous, c'est Carl von Frisch, qui est un éthologue, donc il étudie le comportement des animaux, et il a relevé, donc c'est dans les années 20, hein, ça date, que les abeilles avaient donc une organisation sociale, au sens où, parce qu'il y a plusieurs types d'organisations sociales, mais au sens où simplement elles accomplissent une tâche naturelle en commun. Et donc les rôles sont répartis à l'intérieur de la ruche. Donc certaines vont repérer où se trouve le pollen, et on remarque qu'elles sont capables, en rentrant, d'indiquer de manière très précise, par une certaine danse de l'abdomen, la distance de la source de pollen. Bon. Donc, bien sûr, on dira, ben voilà, ben, l'homme, qu'est-il par rapport à l'animal ? Rien du tout, c'est la même chose, on fait bien la même chose, etc. Donc, on peut dire, en fait, c'est ce qui va m'intéresser ici, qu'il y a bien une communication, parce qu'il y a un destinateur, un destinataire, un message, un code, un canal et un référentiel. Donc, tout est là. Mais la question qui nous occupe, enfin, qui nous intéresse, en tout cas, je pense, c'est est-ce que, du coup, il y a une différence avec le langage humain ? Alors, moi, ce que j'aurais tendance à répondre, c'est que si on assimile le langage humain à de la pure communication, et uniquement à ça, on est finalement à peu près dans le même registre. Et c'est pour ça que c'est important de penser le langage autrement qu'en termes de communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Alors, c'est le linguiste Benveniste, Émile Benveniste, dans les problèmes de linguistique générale, donc à peu près 40 ans plus tard, qui a repris les analyses de von Frisch et qui les a analysées plutôt de manière philosophique, essayant de voir la portée de ces observations par rapport à, justement à l'humanité, au langage humain. En fait, les abeilles sont capables d'utiliser des signaux et pas des signes. Il va distinguer le signal et le signe. Qu'est-ce que c'est un signal ? Un signal, en fait, c'est un type de signe. La distinction, c'est entre signal et signe linguistique. D'accord ? Signe linguistique, c'est-à-dire signe mot, quoi, issu d'une langue. Donc, le signal, c'est un type de signe, mais dont la réponse est un comportement et pas un discours. Donc, quand l'abeille fait sa petite danse, là, en revenant de sa balade pour butiner les fleurs, qui n'est en fait pas du tout une balade, hein, mais qui est qui est un comportement nécessaire lié à l'instinct, eh bien, quand elle rentre et qu'elle fait sa petite danse, il n'y a pas de discussion. Hein, l'abeille ne va pas dire « Ah, c'est vrai, t'es allée voir de ce côté-là, moi j'aurais préféré là, oh non, là vraiment j'ai pas envie. » Enfin, il n'y a pas de réponse linguistique, d'accord ? En fait, là je caricature, mais l'abeille qui reçoit le message ne fait pas elle-même la danse. Celle qui est programmée pour les butiner n'a pas la fonction, n'a pas la capacité de communiquer quoi que ce soit. Donc c'est ça un signal, c'est un signe, au sens où, comme tout signe, c'est une réalité qui en désigne une autre, mais... c'est un signe qui attend comme réponse un comportement. Nous aussi, nous avons des signaux. Hein, le feu rouge, le feu vert, c'est un signal. D'accord ? Feu rouge m'arrête, feu vert je démarre. On ne discute pas avec son feu rouge ou son feu vert. On discute éventuellement avec le policier. Mais quoique, hein, il vaut mieux se comporter face au policier comme si c'était uniquement un signal et pas quelque chose qui demande un dialogue. Vous voyez, on rentre dans le dialogue. Donc, on a un signal. De même, à vos marques, pré-feu, partez. Voilà, j'ai trouvé ça comme exemple. C'est un signal. Hein. On va dire, ah bon, mais tu crois, non, c'est l'heure et tout. Bah, là, on a déjà perdu la course. Non, il faut être efficace hein, face à un signal. Il faut adopter le comportement adéquat. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des signaux chez les hommes, mais la question, à nouveau, c'est est-ce que tout discours est un signal ? Certainement pas. Donc, on ne peut peut-être pas analyser tout le langage sous l'angle de cette communication pragmatique, hein, orientée vers l'action. D'ailleurs, la question un peu insidieuse et insolente que je poserais, c'est là on voit bien que le signal en fait il demande pas la pensée, hein, il exclut la pensée, il demande juste qu'on réagisse de manière adéquate. Et donc la question qui se pose, est-ce que les campagnes de communication nous prennent pour des imbéciles, voyez, comme si parce qu'on entend ne fumez pas, on arrêtait de fumer, voyez. Enfin, je sais pas, c'est une question que je pose. Évidemment, je sais bien que personne n'a l'illusion de croire que parce qu'on communique beaucoup on va obtenir le comportement adéquat, mais parfois je me pose la question. Je me demande s'il ne faudrait pas mieux de faire réfléchir. Oui, mais bon, en général, l'un n'exclut pas l'autre, heureusement. Je ferme la parenthèse. Donc, troisième question, dans cette première partie, finalement, on arrive à l'action. Y a-t-il un pouvoir du langage ? Est-ce que le langage a le pouvoir de nous faire agir ? Justement, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas si idiot ma question. Est-ce que les campagnes de communication nous prennent pour des imbéciles ? Comme si, est-ce qu'à force de marteler les choses, de dire les choses, de les redire ou de les dire d'une certaine manière, c'est ce que pensent les publicitaires, je crois, en disant les choses d'une certaine manière, on va faire agir les gens, ils vont acheter. Et ça, nous, on, quand on l'entend, on est pétrifiés parce qu'on se dit, mais mon Dieu, je vais arrêter de regarder la télévision, ça va me faire acheter des trucs. Donc, comme s'il y avait un pouvoir du langage, de l'image peut-être de manière encore plus forte, en tout cas du slogan, une certaine manière de communiquer sur nous. Alors, y a-t-il un pouvoir du langage ? Donc, j'ai défini le pouvoir. Le pouvoir, c'est faire agir selon notre volonté. Donc, c'est être, subir un pouvoir, c'est être dominé, c'est agir selon la volonté d'autrui. Alors, on peut prendre un exemple que vous connaissez sûrement, l'exemple de la fameuse novlangue dans 1984 de George Orwell. Donc, vous connaissez, c'est un roman d'anticipation écrit dans les années 30. Et donc, il décrit un État totalitaire qui s'appelle Océania. Donc, totalitarisme, pourquoi ? Parce que le pouvoir pénètre absolument tous les domaines de la vie de chaque individu. Donc, c'est symbolisé par le fameux télécran, vous savez. D'ailleurs, c'est une espèce de télévision qui est dans tous les foyers, mais une télévision qui émet et qui capte aussi tout ce que vous êtes en train de vivre et même toutes vos expressions. Et donc, on sait que le pouvoir travaille même à essayer de décrypter vos rêves et à comprendre quelles sont vos pensées. Bref. Et donc, on réforme la langue. Et donc, on travaille vraiment à réformer la langue pour une nouvelle langue qu'on appelle la novlangue. Alors, je vais vous lire un passage. Parce que c'est ça l'angoisse. Est-ce que le langage a un pouvoir sur nous et est-ce qu'en réformant la langue, on va nous faire penser des choses, croire des choses et surtout nous faire agir d'une certaine manière ? Alors, c'est dans l'édition Folio, page 73, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc là, on a le héros Winston qui discute avec un linguiste ou un philologue, donc un historien de la langue qui travaille donc à réécrire le dictionnaire. Donc il dit que quand même ça va prendre un peu de temps, hein, mais donc je vous lis juste son plaidoyer pour la novlangue. C'est une belle chose la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a de plus de déchets, mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre ? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez bon par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? Un « bon » fera tout aussi bien, mieux même, parce qu'il est l'opposé exact de « bon », ce que n'est pas l'autre mot. Et si l'on désire un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles, comme « excellent », « splendide » et tout le reste ? Plus « bon » englobe le sens de tous ces mots. Et si on veut un mot encore plus fort, il y a double plus « bon ». Bon, etc. Donc, Premier constat, ça semble plus complexe que ce que je décrivais, c'est-à-dire que ce pouvoir des mots, c'est pas le pouvoir de nous faire penser telle ou telle chose, mais c'est la destruction, ici, c'est la destruction, en fait, du caractère historique de la langue, de l'héritage dans la langue. Pour l'instant, je lance juste des pistes pour essayer de comprendre ce que ce serait cette réforme de la langue. Je saute un passage. Alors, en fait, je vous donne déjà la réponse parce que je vais lire le passage qui m'intéresse. « Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue... » Alors, attendez, je commente. On pourrait croire que le véritable but du novlangue, c'est de faire passer un message, justement, de communiquer ce qu'il y a à penser. Pas du tout. Le véritable but du novlangue, c'est de restreindre les limites de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés, chacun exactement par un seul mot, dont le sens sera rigoureusement délimité. Donc c'est plus subtil que nous faire penser certaines choses ou nous faire agir, c'est nous rendre incapables de le vouloir. Donc c'est nous rendre incapables de penser. L'idée d'un pouvoir du langage, c'est une idée qui est très ancienne. C'était l'idée des sophistes dans l'Antiquité, en tout cas telle que Platon nous les décrit. Hein, Platon, vous le savez, Socrate, dans les œuvres de Platon, c'est l'adversaire des sophistes. En tout cas, il est constamment en dialogue, en discussion assez tendue avec eux. Et notamment parce que Socrate leur reproche dans leur enseignement de se vanter d'être capable de démontrer n'importe quoi par l'usage de certaines techniques sans se soucier de la vérité. Et on voit bien ici le nœud du débat, c'est est-ce que il y a encore dans les mots une pensée, une recherche de la vérité même, hein, pour Socrate et Platon, ou est-ce que finalement, on considère que ce qui est dit est sans importance, ce qui compte, c'est simplement la manière de le dire. Voilà. Et on va essayer de voir maintenant dans quelle mesure, en fait, le langage est dépositaire de la pensée, ou le langage donne à penser en permanence. Et donc, pour empêcher la pensée ou pour faire penser, on ne fait pas passer une pensée. Non, on doit détruire les mots. On doit vider les mots de leur substance, vider le langage de sa substance. C'est ce qui se passe dans la novlangue. Donc, c'est le pouvoir qui empêche de penser en réformant la langue. C'est le cas de la langue de bois, d'ailleurs, aussi, aujourd'hui. Hein, donc, heureusement, on n'est pas non plus... dans 1984, mais on voit bien que la fameuse langue de bois ou la langue à la mode, les mots à la mode, enfin j'analyserai ça un peu plus tard, c'est pas le problème qui nous font passer des messages, c'est le problème que, en fait, c'est le vide de la pensée. C'est tout simplement le vide de la pensée. On pense rien avec des mots comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de vider la langue de sa substance ? Bah, quand on essaye de réformer la langue, on la vide de ce qui est déposé en elle avec l'histoire. En fait, la langue, c'est un fait historique, c'est un fait social. La langue, elle n'est pas au pouvoir de l'individu, la langue, elle est héritée. Et donc, on la vide de ce qui est en dépôt en elle et dans lequel nous sommes déjà dès notre naissance. Donc, ça va être ma deuxième partie. En fait, le langage en tant que langue... c'est ce qu'il y a de commun. Et donc, le langage, en tant que langue, il précède l'individu. C'est pas nous qui nous servons du langage. C'est le langage qui est avant nous. Hein. Nous sommes dans le langage. En fait, dans l'idée de communication, on laisse croire que l'acte de parler est d'initiative strictement individuelle. Je communique, tu communiques, nous communiquons, chacun se communique et je suis tout à fait à l'initiative de cet acte-là. Mais c'est assez naïf parce que quand on parle avec les mots de tous. Personne n'invente sa langue. Donc je vous disais que Aristote dans les Politiques... au début des politiques, définit l'homme comme un animal politique et en même temps comme un animal parlant, Et j'insistais sur le caractère social du langage. Donc je vais développer un peu plus ce passage. Donc quand Aristote dit « l'homme est un animal politique », ce qui veut dire, c'est que nous sommes par nature, naturellement, faits pour la vie en société. Donc ce n'est pas comme la modernité le pense depuis, en gros, le XVIIIe siècle, un peu avant. C'est pas, il y a d'abord des individus isolés qui vont décider de s'associer, c'est la théorie du contrat social. Oui, donc les anciens n'ont pas du tout cette vision-là des choses. C'est-à-dire que la société précède naturellement l'individu. Un individu sans société, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, Aristote dit, un homme qui vit en dehors d'une société, en fait, c'est soit une bête, soit un dieu. Soit pas encore un homme, soit il a déjà dépassé, c'est la figure du sage hein, d'ailleurs, il est déjà au-delà de l'humanité. Donc soit une bête, soit un dieu. Donc par nature, nous sommes sociaux, politiques en fait, plus justement. Et alors quand il dit par nature, Aristote, il faut voir que pour lui, la nature, c'est quelque chose qui est toujours en développement. La nature, ce n'est pas quelque chose de déterminé, de fixe, c'est un mouvement, un devenir. Donc, par exemple, la graine, elle n'est jamais totalement graine, elle est toujours en train potentiellement de devenir plante en puissance. Et bien, de même, en fait, dire que l'homme est de nature politique, c'est dire qu'il a une puissance en lui, que la vie en société permet de développer, une potentialité. En fait, la société nous humanise. C'est la vie sociale qui nous humanise. C'est par les relations sociales, c'est par la vie politique que nous humanisons. Et cette humanisation, elle se fait par le langage et grâce au langage. Alors, pourquoi, pour Aristote, le langage est nécessaire à la vie sociale ? Pas seulement pour partager, pour échanger, afin de satisfaire nos besoins et de travailler. Oui, bien sûr, comme pour les abeilles, le langage est nécessaire à la vie sociale pour accomplir des tâches et satisfaire nos besoins. Là, d'accord. Mais en fait, ça, ce n'est pas du tout la finalité ultime de la vie sociale. Aristote dit la satisfaction des besoins, donc certes, on ne peut pas survivre seul, on est bien d'accord qu'on a besoin d'échanger pour survivre, mais en fait, ça, c'est la satisfaction des besoins. Elle est assurée, dit-il, au niveau de la famille et, disons, il appelle ça le village, donc d'un groupe un peu plus large que la famille, mais on n'a pas besoin de la vie sociale pour ça. La finalité de la vie sociale, ce n'est pas seulement la satisfaction des besoins, mais c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'humanisation, c'est-à-dire le fait que nous développions les potentialités qui nous permettent de devenir vraiment hommes et d'être vraiment heureux. Le but de la vie sociale, ce n'est pas de vivre, c'est de bien vivre, c'est-à-dire de vivre selon le bien. Bien vivre, ça ne veut pas dire vivre riche hein, ou de manière opulente, etc. Là, on est encore dans les besoins, dans la satisfaction, la sursatisfaction des besoins. Non, la finalité de la vie sociale, c'est le bonheur. C'est-à-dire l'accomplissement de toutes nos potentialités, intellectuelles, morales notamment. Et donc, la finalité du langage, ce n'est pas seulement de signifier aux autres nos besoins. D'accord, c'est une des fonctions du langage, hein, j'ai faim, j'ai soif, je veux ça. Mais il dit, hein, le langage humain, contrairement au système qu'on voit chez les animaux, il signifie non seulement le douloureux ou l'agréable, ce qu'on trouve chez les animaux, mais aussi le juste et l'injuste. C'est-à-dire des valeurs abstraites. On pourrait rajouter le vrai et le faux. Donc on sort du cadre pragmatique, on sort de l'action en commun qui vise simplement à satisfaire des besoins. Le langage n'est pas seulement au service de l'utile, parce qu'il est justement humain. La communication animale, elle est au service de l'utile, c'est un des moyens de l'instinct en fait. Elle est instinctive et l'instinct c'est un moyen pour l'espèce de se conserver et pour l'individu de survivre le plus possible. Ici, on n'a pas un langage instinctif, on a un langage libre qui est capable de signifier des valeurs. Et donc, on voit bien ici, chez Aristote notamment, que c'est par le langage que se forme la possibilité de la réflexion éthique. la possibilité, par exemple, de jugements qu'il appelle des jugements de prudence, au sens d'une réflexion sur ce qui doit être fait dans tel ou tel cas, de réflexion sur le juste ou l'injuste, le bien ou le mal. Et c'est là où on a affaire à un langage proprement humain, à un usage proprement humain du langage. Donc, vous voyez, parler, ça ne se ferait pas si l'individu était seul. Mais penser l'individu seul, c'est impensable, en fait, hein, pour les anciens. Parler, ça se fait par la vie en commun, mais parler humainement, ça se fait d'autant plus par la vie en commun. Parler humainement, c'est-à-dire parler du vrai et du faux, du juste ou de l'injuste, du bien et du mal. C'est parce que nous vivons ensemble que nous accédons à ce type de représentation, à ce type de réflexion, que nous accédons à la pensée, en fait, par notre langage. Donc ça, c'est le premier aspect que je voulais développer pour dire donc que, en fait, le langage n'est pas une décision individuelle de parler, ce qui me semble être plutôt du côté de la communication, mais le langage, c'est ce qui nous précède, au sens où nous sommes des êtres parlants grâce à la vie en commun. Et d'autre part, le deuxième aspect, donc, c'est la langue, ce sur quoi j'insistais tout à l'heure. Nous parlons dans une langue, évidemment, particulière, qui est la possession, enfin la caractéristique même d'une société, d'un peuple, d'un groupe. Il y a une question qu'on peut se poser en linguistique, c'est pourquoi nos discours ont un sens, hein, pourquoi les mots que nous employons ont un sens, d'où vient la signification ? Alors, vous savez, on parle, peut-être vous avez déjà entendu cette expression, de l'arbitraire du signe linguistique. En fait, c'est-à-dire que c'est très simple, nos signes linguistiques, les mots que nous employons, ils ont un rapport arbitraire à ce qu'ils signifient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rapport de ressemblance ou de rapport naturel. Je vous donne deux exemples. La fumée, c'est le signe du feu parce qu'il y a un rapport naturel. Hein, le feu est la cause de la fumée. Ou la fièvre, c'est le signe naturel de la maladie parce qu'il y a un rapport de causalité naturelle. D'accord ? Premier type de rapport entre le signifiant et le signifié. Deuxième autre type de rapport, la ressemblance symbolique. Par exemple, le lion est symbole de la force parce que le lion a des caractéristiques de la force. Bon, donc il y a une ressemblance, il y a une image. Soit une causalité, soit une image. Eh bien, les mots n'ont pas de rapport ni naturel, ni symbolique avec ce qu'ils signifient. Fleur, F-L-E-U-R, fleur, le son ou le graphisme fleur n'est pas une image de la fleur. Hein, et évidemment, on le sait, c'est évident dès qu'on voit qu'il y a une diversité des langues. Il y a une diversité des langues, il y a une diversité des signes, donc il y a un arbitraire du signe. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que les signes, les significations sont quand même relativement fixes ? Qu'est-ce qui fait que fleur désigne pour à peu près tout le monde, on sait à peu près ce que ça désigne ? Ça paraît une question technique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Comment se fait-il qu'on ait une langue en commun ? Enfin, comment se fait-il qu'on se comprenne ? Parce que dans ces cas-là, on pourrait dire, si le signe est arbitraire, moi, je vais dire bouzou-bouzou pour dire fleur, parce que de toute façon, le son fleur ne désigne pas naturellement ni par ressemblance la fleur. Et donc, évidemment, vous me voyez venir, quelle est la solution au problème ? C'est que les mots signifient parce qu'ils appartiennent à une langue qui est un système. Et ce qui fixe la signification, c'est certainement pas la volonté individuelle, mais c'est bien la langue en tant que fait social. Les significations sont relativement fixes, hein, y a quand même une évolution évidemment, mais les significations sont relativement fixes parce que c'est le groupe qui préside à la langue et c'est pas l'individu. Alors celui qui j'aurais peut-être quand même dû citer mes sources, celui qui analyse ça, c'est le linguiste Ferdinand de Saussure, donc qui est genevois, qui écrit en 1916 le cours de linguistique générale. Enfin, en fait, il ne l'écrit pas, mais c'est ses étudiants qui l'écrivent pour lui. Et, Et donc, il va insister. Donc, le problème de l'arbitraire du signe, hein, c'est vraiment un vieux problème. Platon le pose déjà dans un dialogue qui s'appelle le Cratyle, où on se demande, bah, du coup, d'où vient le fait qu'on a fixé le rapport entre les signes et leur signification. Alors, il y a plusieurs thèses, etc. Donc, il reprend ce problème-là, mais il va vraiment fonder une distinction capitale, qui est la distinction entre parole et langue. Et donc, le rapport entre l'individu et la société. Nous parlons, la parole, elle est individuelle, elle est d'initiative individuelle. C'est le fait de produire un discours qui nous est propre, qui à chaque fois est un événement, d'ailleurs. Hein. Je dis toujours quelque chose de nouveau. Ça, c'est quand même magnifique de se dire ça. Tout ce qu'on dit est nouveau. Alors, on peut dire des choses très entendues, mais c'est toujours un événement parce que ça se passe toujours à un moment qui est différent et par une personne qui n'est pas exactement la même ou pas la même humeur ou pas exactement de la même manière. Donc, la parole est toujours un événement individuel. Mais la parole n'est pas sans la langue. D'accord ? Je ne peux pas parler si je ne maîtrise pas une langue. Et donc, quand nous parlons de manière individuelle, mais en fait, nous parlons à travers les mots qui sont les mots de tous. Et ce qui va créer de gros problèmes, et ce qui va créer la possibilité du malentendu, la possibilité de la rumeur, la possibilité de la connotation non maîtrisée, puisque, en fait, il y a des significations bien plus larges que mon intention de signifier. Donc, par exemple, je ne sais pas... Il peut y avoir des sous-entendus équivoques dans un discours qu'on n'a pas du tout anticipé. Donc ça peut être très gênant, parce que tout d'un coup, on voit une classe entière se mettre à rigoler et on ne sait pas pourquoi. Donc la langue est dépositaire de significations qui ne sont pas forcément maîtrisées par celui qui parle. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré tous nos efforts, on ne maîtrise pas forcément tout ce qui est dans notre discours. Alors, on voit des communicants, je parlais des communicants tout à l'heure, qui font tout pour maîtriser la teneur des messages. Hein. On voit bien dans les discours des politiques qu'il y a eu des communicants qui ont vraiment travaillé des formules. Hein. Alors, j'en donne deux de deux bords, hein, pour ne pas avoir l'air de prendre parti. Donc, récemment, on a eu la fameuse boîte à outils de François Hollande. Mais avant, on a vu la TVA sociale. Donc, je tire ça d'un blog que j'ai trouvé sur Internet d'un type qui analyse la nouvelle langue d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Hein. Mais en tout cas, donc, la fameuse langue de bois des politiques. La boîte à outils, donc, on sent vraiment le travail du communicant. Quoi, hein. Il s'est dit, bon, enfin, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il s'est dit, mais on voit bien qu'il a vraiment travaillé sa formule. Et en fait, on voit bien que ça lui a échappé. Les significations lui ont complètement échappé. Parce que je pense qu'il voulait montrer bon, bah, quelqu'un qui vraiment a de la ressource. Hein, qui a une ressource au sens où il a des outils qu'il va pouvoir adapter aux situations, etc., qu'il est l'homme qu'il nous faut pour nous sortir de situations difficiles, etc. Bon, on voit bien ce qu'il a voulu dire, mais en fait, la boîte d'outils, c'est juste devenu complètement ridicule. Ça a été tourné en dérision très vite parce que dans l'idée de boîte à outils, il y a l'idée du bricoleur, quoi, du bricolo. Et ça, il ne l'avait pas du tout anticipé. Enfin, en tout cas, c'est une des manières dont ça a été... Donc, le bricolo, l'incompétent, à la limite, vous voyez. Et j'imagine bien, qu'à moins que ce soit un pervers, que le communicant n'ait pas du tout vu ça. Donc, vous voyez, il y a des connotations qui échappent à celui qui veut communiquer. On communique, mais la communication, elle n'est jamais totalement maîtrisée par celui qui communique. Donc, on voit bien que c'est un outil qui est très, très décevant, qui est un outil qui n'est pas très opératoire dans ces cas-là. Alors, j'avais dit que je prendrais un autre exemple. C'est la TVA sociale que j'ai trouvée aussi. Donc, ça, c'était Sarkozy. La TVA sociale, pour faire passer l'idée qu'en fait la TVA est... Enfin bon, c'était un blog plutôt de gauche, mais que la TVA n'est pas du tout juste. Donc on a voulu assembler en fait des mots assez contradictoires. La TVA, comment la TVA peut-elle être à la fois sociale ? Alors je ne vais pas rentrer dans le développement économique que je ne maîtrise pas du tout. Mais là encore, on a un projet de faire passer un message par la langue, mais qui a échappé, qui a avorté. Ça n'a pas convaincu du tout l'opinion. Donc on voit bien l'inefficacité du slogan, pas seulement à cause de son imperfection, mais parce que c'est l'une des raisons, les significations, les connotations échappent. Donc c'est pas parce qu'on a l'intention de signifier dans un discours, dans une parole propre, qu'on maîtrise le sens, tout le sens. Parce que donc la langue... Saussure le dit, la langue n'est pas à l'initiative de l'individu, la langue, elle précède l'individu. Elle est contraignante, elle est très contraignante. Et d'ailleurs, apprendre une langue, on le sait, c'est extrêmement contraignant. Donc, à partir de ce constat, la langue est contraignante pour l'individu. Je pense qu'on peut dire que la langue n'est pas un outil qu'on manie à notre guise. À la limite, on peut dire que la langue, on ne s'en sert pas, que le langage, on ne s'en sert pas, que la langue nous sert pour parler. Mais la langue nous sert dans la mesure où, d'une certaine manière, on lui obéit, quoi. On doit maîtriser les règles. En fait, ça va m'amener vers ma troisième partie. Ce qu'on constate ici, c'est que si on considère que parler, c'est simplement communiquer sa pensée, comme s'il y avait une pensée qui précède le langage, et que du coup, le langage était cet outil bien utile pour traduire notre pensée, eh bien, c'est là où, je crois, il y a un échec. Il y a cet échec-là. Parce que, en fait, c'est tout en parlant que se révèle notre pensée. Il y a souvent bien plus dans notre discours que ce qu'on avait anticipé. De même que, on a parlé la dernière fois, quand l'artiste crée, il découvre parfois des choses qu'il n'avait pas forcément anticipées. De même, quand on parle, il y a des choses qui se révèlent, des significations, des connotations qui se révèlent beaucoup plus riches que ce qu'on avait anticipé. Et c'est là où on voit à la fois l'imperfection de l'outil, du langage comme outil, et peut-être plutôt aussi sa richesse. Or, c'est là où on va retrouver quand même l'idée de dialogue, qui n'est pas la communication. C'est que toutes les richesses de mon discours, c'est par la réponse d'autrui qu'elles me sont révélées. Donc si le langage n'est pas communication, alors, en revanche, il est toujours dialogue. Et il est toujours pensée. Donc ça va être la thèse de ma troisième partie. Parler, c'est penser, et non pas communiquer. Et on verra que la pensée, elle, se construit dans le dialogue, mais pas dans la communication. Alors, on pense souvent que communiquer, ça, c'est un autre sens du terme que je n'ai pas encore abordé. Communiquer, c'est se communiquer, c'est s'exprimer, justement. J'avais parlé tout à l'heure de l'expression animale, qui n'était pas l'expression des sentiments, hein, j'espère que vous me l'accordez, mais plutôt une expression des sensations. Donc, une espèce de réaction naturelle hein, qui viserait à exprimer à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur. Mais nous, nous exprimons plus que des sensations, nous exprimons des sentiments. Et on emploie ce terme-là, « je me communique », on l'entend. « Je me communique », »,« nous communiquons », chacun va essayer de faire passer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Hein. Donc là encore, comme si le langage était cet outil qui permettait de manifester ce qui est déjà formulé à l'intérieur. Bon. Là encore, on voit l'échec de cette conception, puisque le langage n'est pas le vecteur idéal pour s'exprimer. C'est souvent très décevant, en fait. Donc cette analyse, elle est célèbre, c'est une analyse de philosophe Bergson qui montre qu'en fait, le langage, il est toujours général, il catégorise le réel à travers un certain nombre de concepts. En vue de l'action, nous avons besoin de catégoriser les choses pour pouvoir agir, justement. Et donc, quand on veut exprimer quelque chose de singulier, eh bien, on voit bien que le langage est imparfait. Donc, il fait une critique dans les données immédiates de la conscience. Je cherche le passage. Alors, il prend l'exemple, vous savez, du poème d'amour. Donc, vous êtes fou amoureux, votre sentiment est absolument incroyablement nouveau. Et surtout, personne ne peut vous comprendre, bien sûr. C'est quelque chose d'inédit. Hein. Je dis ça un peu érotiquement, mais en fait, c'est vrai. Tout sentiment a quelque chose d'absolument singulier. Et dès lors qu'on veut le mettre en mots, parce que le jeune amoureux, il n'a qu'une envie, c'est d'exprimer son amour, alors il va essayer de le faire d'une manière un peu poétique. Bon, et malheureusement, c'est souvent un peu pathétique. Parce que voulant dire quelque chose, sauf si on a un poète de talent, hein, ça on va le voir, mais on veut dire quelque chose de singulier, puis en fait, on est obligé de prendre les mots de tout le monde. Hein, parce qu'il n'y a que les mots de tout le monde. Ce que je disais tout à l'heure, la langue, elle est commune, et pour parler, on est bien obligé de s'y plier. Alors, je vous donne juste quelques passages. Chacun de nous a sa manière d'aimer, de haïr. Cet amour, cette haine reflète sa personnalité tout entière. Cependant, le langage désigne les états par les mêmes mots chez tous les hommes. Aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour ou de la haine et des 1000 sentiments qui agitent l'âme. Alors, ça me permet d'anticiper sur la suite. Je vous lis la suite du texte. Il va dire pourtant que il y a un usage du langage qui est celui du poète ou du romancier qui va essayer avec la langue de créer, c'est-à-dire de dire quelque chose d'une manière qui n'a jamais été dite, et peut-être donc de saisir une singularité. Nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public où le langage les avait ainsi fait descendre, des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre par une multiplicité de détails qui se juxtaposent leur primitive et vivante individualité. Alors, à partir de ce constat, voyez, de cette espèce de difficulté à se communiquer par le langage, le langage échoue à être cet outil qui dit le singulier, eh bien, il y a deux voies. Alors, il y a celle de la poésie, puisque j'ai lu la suite du texte, je vais tout de suite la développer. Le poète, quand il travaille, il travaille le langage comme un matériau. Donc, tout à l'heure, j'ai fait allusion à la fonction poétique du langage qui va nous alerter sur la matérialité des signes, donc par exemple par la rime ou toute autre sorte de procédé. Donc, on voit bien que le poète a comme matériau le langage, de même que le sculpteur a la pierre et le peintre la couleur, hein, ou le musicien les notes, le rythme, etc. Et donc, en fait, le poète ne communique pas du tout un message. Comme on le croit parfois, naïvement aussi, on croit que le poète, c'est le poète engagé. Le poète engagé comme figure ultime du poète, pas du tout. Le poète engagé, c'est le piètre poète. C'est celui qui pense que le langage n'est qu'un outil pour traduire un message qui serait extérieur au poème. Hein, donc, vous voyez, enfin, la chanson engagée, il y a de très belles chansons engagées, mais la chanson engagée, c'est bien plus que la simple traduction d'un message politique. Sinon, pouh là là, ou alors vaut mieux lire des discours politiques dans ces cas-là. Ou alors on dit parfois le roman philosophique, oh là là, mais le roman philosophique, mais moi je préfère, soit je lis de la philosophie, mais quand je lis des romans, j'ai pas du tout envie qu'on me fasse une leçon de philosophie à travers le roman. Vous voyez, comme si donc la forme n'était qu'un support superficiel pour faire passer un message, pour communiquer, pour se communiquer, etc. Il me semble que c'est une vision fausse des choses. La fable de La Fontaine. C'est très naïf de croire qu'elle est là pour illustrer la morale, parce qu'en fait, quand on étudie le rapport entre la morale et la fable, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toujours quelque chose de plus dans la fable, dans l'histoire, que dans la simple morale. Donc, ce n'est pas une illustration de la morale. Donc, vous voyez, on est encore dans une conception utilitariste du langage. Donc, si on prend vraiment le poète, non pas comme celui qui simplement va habiller son message par quelque chose de joli, mais le poète, c'est celui qui travaille son matériau, hein, qui travaille le langage comme une musique. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fond, hein, pas du tout. Mais c'est la forme qui fait le fond. Vous voyez, ce n'est pas la forme qui traduit un fond qui préexiste, c'est la forme qui fait le fond. Alors, deux exemples qu'on peut trouver dans... Alors, soit la poésie un peu hermétique, hein, mais j'aime bien cette citation de Mallarmé, qui est souvent citée, d'ailleurs, souvent dans les cours de philosophie sur le langage. Il dit « Je dis fleur, et aussitôt se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Je dis fleur, et aussitôt se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Je dis fleur ». Donc, évidemment, là, on voit que le poète, il travaille l'arbitraire du langage. « Je dis fleur, et aussitôt se lève, là, hein, l'absente de tout bouquet. » Donc, dès lors que le mot est dit, il n'y a plus la fleur. Hein. C'est l'absente de tout bouquet qui est évoquée. Mais en même temps, donc, vous voyez, le langage ne traduit pas les choses. Il traduit quoi ? Une idée, mais qui n'est pas une idée intellectuelle, idée même et suave. Donc en fait, quelque chose se lève, aussitôt se lève, mais ce qui n'est plus la chose, qui n'est pas non plus l'idée, qui est quelque chose d'inédit et de nouveau. Par la forme, quelque chose, un sens apparaît. C'est le cas aussi des associations... des surréalistes, par exemple. Hein, vous connaissez le fameux jeu, là, le cadavre exquis, boire à le vin nouveau. Donc on a, par le hasard, un certain nombre de procédés de hasard, des associations qui défient la logique, qui n'ont rien à voir avec le réel, donc qui traduisent et qui communiquent rien de préalable, mais pourtant qui vont apporter un sens. Le cadavre exquis, boira le vin nouveau, donc qui est devenu un peu la phrase programmatique des surréalistes. On a une association vraiment de hasard, donc ça, vous connaissez le jeu. Et puis, y a un sens qui apparaît, c'est notamment un programme esthétique. Le vin nouveau, c'est une nouvelle esthétique. C'est une nouvelle... Bon, mais ça n'était pas anticipé. Donc là, on a évidemment des exemples extrêmes, parce que c'est une création qui laisse sa part au hasard, en fait, le surréalisme. Donc on voit bien, le poète, il n'a pas un message préétabli dans la tête qui va communiquer. Non, il va travailler la forme elle-même, et c'est par le langage que quelque chose, un sens, va pouvoir être pensé, va pouvoir être apprécié, en tout cas, être entendu. Je termine ce passage sur la poésie, puis je voudrais prolonger un peu plus, mais si j'en ai le temps, oui, 5-10 minutes. Juste une citation de Sartre qui dit « Les poètes sont des hommes qui refusent d'utiliser le langage ». C'est paradoxal en apparence, parce que le poète, il ne fait que ça, parler. Mais ce qui est important, c'est le mot « utiliser ». qui refuse d'utiliser le langage. Le poète s'est retiré d'un seul coup du langage instrument. Il a choisi une fois pour toutes l'attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. Les mots comme des choses, c'est pas, on parle pas des choses avec les mots, c'est les mots eux-mêmes qui sont des choses. C'est en cela que c'est pas de la communication, c'est-à-dire le vecteur d'un message. Dernier point, en fait, pourquoi le langage ne parle pas des choses mais est la chose, c'est qu'en fait, le langage humain, c'est le propre du langage humain, c'est l'abstraction, c'est le concept. Justement, c'est ce que critiquait Bergson, mais la deuxième voie, ça pourrait être de dire que c'est justement parce que le langage est abstrait des choses qu'il nous permet de penser. L'abeille qui communique parce qu'elle a perçu quelque chose dans une situation naturelle et parce qu'elle veut obtenir un certain comportement, elle ne pense pas encore. Elle est dans l'expérience concrète. Elle est immergée dans la nature. Benveniste remarque que les abeilles sont incapables d'un métalangage. Ce que disait tout à l'heure, fonction métalinguistique, c'est le langage qui parle du langage. Les abeilles ne sont pas capables. D'accord, donc je caricaturais en disant que l'abeille, elle ne va pas interroger l'autre sur son message. Elle ne va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu me racontes attends, je n'ai pas compris. Là. Tu peux t'expliquer, tu peux parler. Non, on n'est pas capable de parler au sujet du langage. Et ça veut dire qu'en fait, enfin, on est l'abeille, les animaux. Donc, ils peuvent parler, mais ils sont à la limite, on pourrait le dire. Bon, ils peuvent communiquer, mais ils ne sont pas capables d'un métalangage. Ils ne sont pas capables de s'interroger sur leur propre langage. Donc, il y a plein de choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Ils ne sont pas capables de mentir. Ils ne sont pas capables de dire le faux, ils ne sont pas capables d'interpréter. Qu'est-ce que nous faisons quand nous parlons ? Nous parlons rarement des choses. En fait, nous parlons des discours sur les choses. Nous passons notre temps à réinterpréter le discours des autres. D'ailleurs, si on a été élevé vraiment de manière très rousseauiste, au cœur des choses et de la nature, dans un environnement hyper rural, etc., encore que, mais qu'est-ce qui nous introduit au monde ? Ce n'est pas le rapport direct aux choses, c'est toujours médiatisé par du langage. On me dit, regarde, ça c'est une vache. C'est rare qu'on mette devant la vache pour voir comment je réagis et que j'induise que c'est une vache, voyez. Non, tout est médiatisé par les choses. Tout notre rapport aux choses est médiatisé par du langage. Donc en fait, ce que dit Benveniste, c'est que le langage, c'est pas un outil parmi d'autres, c'est pas un fait humain parmi d'autres, c'est le rapport fondamental de l'homme au monde. Nous sommes au monde par le langage. Donc en fait, nous sommes, d'une certaine manière, parce que nous parlons, un peu détachés du monde, un peu hors du monde. Ou plutôt, notre rapport au monde est médiatisé. C'est parce que nous sommes dans les mots que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas directement. Nous nous rapportons au monde par les mots. C'est ce qu'il appelle le rapport symbolique au monde. Hein, il y a l'intermédiaire du symbole. Eh bien, en fait, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'arbitraire du signe. Vous voyez, les signes que nous employons, ce n'est pas des copier-coller des choses, ce n'est pas des images immédiates et naturelles du monde. Et l'arbitraire du signe, il nous introduit à ce qu'on appelle la culture. C'est parce que nous parlons que nous sommes des êtres de culture et pas uniquement des êtres de nature. Alors, ça va me permettre de conclure, notamment par rapport à cette question de la novlangue et du pouvoir des mots. Ce qu'on a vu, c'est que en fait, il est faux de penser que nous nous servons du langage pour communiquer. Nous croyons le faire, bien sûr. Nous croyons le faire, nous essayons de le faire. Nous essayons d'user d'un outil, parfois. Hein. Mais en fait, premièrement, nous usons d'un outil imparfait, on l'a vu. Un outil que nous peinons à maîtriser totalement. Il n'est pas au service de notre volonté individuelle, tout simplement parce que cet outil-là n'est pas individuel. Le langage, en tant que langue, est un fait social. Elle a une structure, une histoire que nous ne façonnons pas. Mais plutôt que de le regretter, cela, je pense qu'il faut le voir d'une manière beaucoup assez positive, au sens où, apprendre une langue et apprendre à parler, c'est devenir plus humain et intégrer devenir capable d'être un être de culture. Déjà, accéder à l'abstraction, à la capacité de penser, à la capacité de prendre du recul. Donc, on croit parfois que le langage nous permet d'exprimer notre pensée, c'est faux. Nous pensons avec les mots et grâce aux mots. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la fameuse novlangue, la réforme de la langue, pourquoi est-ce que elle a un pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, non pas parce qu'elle transmet un message, elle nous dit quoi penser, mais parce qu'elle nous empêche de penser en nous empêchant de parler. Donc c'est justement le fait d'être introduit à la langue de tous, de posséder la langue avec toute sa dimension historique, avec toutes les connotations dont elle est dépositaire. Plus on possède la langue et plus on devient capable de penser. Mais cette pensée, on le voit, elle s'établit dans un dialogue, elle se découvre dans un dialogue. C'est-à-dire, on ne pense jamais seul. Et Platon disait d'ailleurs que la pensée, il la définissait comme le dialogue de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour nous introduire au langage, on a besoin des autres pour apprendre la langue, et on a besoin du dialogue et de l'interprétation mutuelle de nos discours pour comprendre tout le sens qui est dans le discours que nous-mêmes prononçons. Et donc, si il est faux, à mon sens, de dire que le langage sert à communiquer, en revanche, on peut dire que tout acte de parole est toujours dans l'horizon du dialogue. Et c'est ça qui nous permet de penser et de devenir plus humains. Merci.